L'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Édouard Philippe annonce au syndicat de la SNCF que l'État va reprendre 35 milliards d'euros de la dette de l'entreprise. La CGT affirme vouloir continuer la grève, mais l'UNSA se dit rassurée sur l'engagement ferme de l'État. Suivi des discussions ce matin à Matignon avec Léo Técher. À la veille d'une manifestation organisée par la gauche de la gauche, baptisée Marée Populaire, le député France Insoumise Alexis Corbière salue une montée en puissance de la mobilisation. Analyse politique de Stéphane Robert. À l'étranger, la Corée du Nord se dit toujours disposée à dialoguer avec Washington au lendemain de l'annulation soudaine par Donald Trump du sommet qui était prévu entre les deux pays le 12 juin prochain. Commentaire de Marie-Pierre Véraud. Et puis de nouveaux bombardements en Syrie sur des bases iraniennes ou des positions du Hezbollah libanais. Précision est suivie d'Éric Biegala. Netflix a dépassé Disney en termes de capitalisation boursière. Ascension fulgurante pour cette entreprise qui a littéralement révolutionné le divertissement. C'est ce que nous dira Elie Abergel. Et puis, 7 mois après les premières accusations d'abus sexuels contre lui, le producteur de cinéma Harvey Weinstein va se livrer à la justice dans quelques minutes à New York. On sera en ligne avec Grégory Phillips, l'invité de la séquence interview, Corentin Célin, historien spécialiste des États-Unis. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jasbert.
Comment allez-vous? Moyen, Antoine, je suis fatiguée. On est de plus en plus nombreux à se plaindre de la fatigue, du manque de sommeil et surtout de ses conséquences. Alors il y a des causes, il y a des enjeux autour de cette question, mais il y a aussi peut-être des remèdes. On va en parler avec nos invités. Ils ne sont pas médecins, ils sont philosophes. Dalibor Friou et Éric Fiat seront avec nous dans la deuxième et dernière partie de la grande table.
Voilà, c'est sans doute un moment clé dans ce conflit à la SNCF. Le Premier ministre reçoit depuis ce matin les syndicats à tour de rôle pour leur faire part de ses dernières propositions et notamment celle-là de reprendre 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF. Léo Técher, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Donc à Matignon, vous suivez pour nous ces réunions, enfin ces réceptions par le Premier ministre, donc les syndicats à tour de rôle. Le Premier ministre qui doit s'exprimer dans quelques minutes maintenant à l'issue de toutes ces consultations, on connaît déjà grosso modo les grandes lignes des annonces qu'il doit faire.
Ben oui, on le sait parce qu'après leur réunion avec le Premier ministre, les représentants des syndicats sont tous passés un à un devant les caméras et les micros dans la cour de Matignon. Édouard Philippe leur a donc annoncé 7 reprises à hauteur de 35 milliards d'euros sur les 47 milliards de dettes de SNCF Réseau. Un rachat forcément obligatoire pour que le futur groupe SNCF puisse être réorganisé par la réforme en société anonyme et ne soit pas déclaré en faillite en quelque sorte dès le 1er janvier 2020. Alors c'est 35 milliards d'euros, c'est la fourchette haute de ce qui filtrait depuis plusieurs jours. Il y aura d'abord 25 milliards repris en 2020, puis 10 milliards à la fin du quinquennat en 2022. Un échelonnement pour ne pas froisser non plus Bruxelles à propos de notre dette publique. Et puis l'autre annonce qui était attendue, c'est celle des investissements. Eh bien, ils vont augmenter de 200 millions d'euros par an pour atteindre 3 milliards 8 investis chaque année dans les rénovations, les gares ou encore les voies. En revanche, les syndicats ne retiennent pas d'annonce claire du Premier ministre sur le volet social, alors que c'est ça qui pourrait faire désormais basculer le mouvement.
En tout cas, les annonces qui ne sont pas de nature à faire cesser la grève, c'est ce qu'affirmait donc le porte-parole de Sudrail à la sortie de son entretien. La CGT exige une table ronde pour fixer par écrit ses engagements du gouvernement. L'UNSA, en revanche, se dit rassurée sur un engagement ferme de l'État pour les finances de la SNCF. L'UNSA qui dit qu'elle va prendre rapidement, très rapidement, une décision sur une éventuelle sortie de la grève lancée début avril. Voici son représentant Roger Dillenseger au micro de Sarah Lemoine.
Notre objectif, notre perception, c'est que sort aujourd'hui de cette réunion avec une vision plus favorable que jamais. Voilà, avec des attentes qui restent fortes, mais encore une fois, une écoute qui a été réelle. Voilà. Donc maintenant, notre travail à nous, ce sera déjà de finaliser ce chantier et ce chantier qui sera finalisé avec le passage au Sénat. Et encore une fois, le texte officiel, ce n'est pas un échange ni avec le Premier ministre, ni avec Mme Borne, mais le texte officiel, c'est ce qui sortira du Sénat. Et à ce moment-là, je pense que le timing qui nous reste devant nous par rapport à cette sortie nous devra également nous servir à apporter la bonne information aux cheminots.
Voilà, l'UNSA donc avec Sarah Lemoine. Léo Técher, retour vers vous. On savait que l'objectif du gouvernement, c'était bien sûr par ces annonces de fracturer l'unité syndicale qui avait tenu jusque-là, ou pour le moins de désamorcer en tout cas ce mouvement, dont on dit par ailleurs qu'il était en voie d'affaiblissement. Bon, il semble que l'opération soit en passe de réussir ce matin.
Oui, il y a quand même eu ces quelques signes d'ouverture. On vient de l'entendre, le plus franc est venu de l'UNSA avec cette déclaration sur une décision très rapide à venir sur une possible sortie de grève. Ça ressemble quand même à une première fissure dans l'unité syndicale, même si pour le moment l'UNSA ferroviaire appelle toujours à la mobilisation pour la prochaine grève lundi. Mais ça est de l'aveu même du secrétaire général Roger Dielenseger. C'est pour peser sur les discussions au Sénat qui débutent, elles, mardi. L'UNSA dit même être maintenant en phase de vraies négociations. Alors on attend maintenant la déclaration de l'autre syndicat réformiste, la CFDT, qui va pas tarder à sortir du bureau d'Édouard Philippe. Mais même du côté des contestataires, le ton s'adoucit. La CGT parle d'un gouvernement plus ouvert et tend la main pour une sortie de crise. Laurent Brun demande plus que des paroles, il veut des engagements écrits du Premier ministre sur le volet social, la protection des droits des cheminots après l'ouverture à la concurrence. Dans la cour de Matignon, on a donc eu l'impression que la CGT ne demandait plus que cette table ronde de négociations, syndicats, patrons, gouvernement, sur la future convention collective pour lâcher du lest. Sudrail demande la même chose, mais reste tout de même un peu plus virulent ce matin. Pour eux, les 35 milliards, il ne faut pas oublier que ce rachat de dette, c'est un cadeau pour les entreprises privées. Et Sudrail demande toujours le départ de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF.
Merci beaucoup Léo Técher. Donc en direct dans la cour de Matignon où se déroulent ces entretiens avec le Premier ministre à propos de la SNCF. Le gouvernement donc peut-être en passe de sortir de ce long conflit dans la SNCF à la veille d'une manifestation qui est organisée par la gauche de la gauche qui a été baptisée Marée Populaire parce que les organisateurs se félicitent de l'unité entre les organisations syndicales, les partis politiques, les associations, estiment que le rapport de force avec le chef de l'État continue. Ainsi, le député France Insoumise Alexis Corbière saluait ce matin une montée en puissance de la mobilisation, de même que le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent qui assurait que les citoyens étaient de plus en plus nombreux à unir leurs forces pour faire entendre une exigence de changement, changement de cap social. On se souvient à l'inverse que cette semaine, en Conseil des ministres, le chef de l'État avait jugé que la mobilisation de mardi pour le service public était moindre que celle de mars. Ça tente à confirmer, disait-il, l'idée qu'il n'y a pas de convergence des luttes. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
On revient toujours sur ce terme, convergence des luttes. L'objectif de l'exécutif, c'est bien sûr d'arriver à l'été sans convergence ni coagulation et malgré les organisateurs, des déclarations des organisateurs de cette marée humaine de demain, le pari semble presque gagné.
Oui, on voit bien que ça ne prend pas, que la mobilisation se tasse au fil des semaines, à la SNCF ou encore chez les fonctionnaires mardi. Et il est fort peu probable, pour ne pas dire impossible, que se réalise cette coagulation, cette convergence des luttes que la gauche radicale appelle de ses voeux. Qu'est-ce que c'est que cette marée populaire qui est organisée demain? C'est la même chose, à peu près, que la fête à Macron du 5 mai dernier qu'avait mis sur pied le député de la France Insoumise, François Ruffin. La différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes organisateurs à l'origine. Là, il s'agit d'Attaque et de la Fondation Copernic, mais on aura à peu près les mêmes participants. Or, la fête à Macron avait réuni quelques dizaines de milliers de personnes dans une ambiance potache. Bref, elle avait eu un succès d'estime, mais on était très loin d'une mobilisation populaire susceptible d'enflammer le pays contre Emmanuel Macron. Mais si, vous allez voir, nous dit-on du côté de la France Insoumise, du Parti Communiste, de la CGT, la mobilisation grossit, le pays est au bord de la révolte. Et la preuve que ça va marcher est que pour la première fois depuis 1996, la CGT et son secrétaire général Philippe Martinez vont défiler aux côtés des partis politiques, notamment du Parti Communiste. En réalité, on a plutôt là la preuve que ça va mal, que la CGT et le Parti communiste semblent tellement affaiblis qu'ils en sont contraints à se réconcilier et à se remettre ensemble pour essayer d'exister. On voit d'ailleurs que la division est encore très présente. Jean-Luc Mélenchon va défiler à Marseille pour ne pas apparaître aux côtés de Philippe Martinez qui lui défilera à Paris. Le Parti socialiste n'est pas invité, il a même plutôt intérêt à ne pas se pointer. Bref, le grand soir, ce n'est pas pour demain. Le problème est vraisemblablement que ces forces de la gauche radicale sont dans une volonté de revanche, qu'elles essaient depuis des semaines, voire depuis des mois, de rejouer le combat politique qui a été perdu il y a un an au moment de la présidentielle. Or, en l'espace d'un an, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron et sa politique suscitent une adhésion massive, mais on ne peut pas dire non plus qu'il s'est effondré dans l'opinion.
Stéphane Robert, merci beaucoup. Il est maintenant midi 40 minutes. La Corée du Nord se dit ce matin toujours disposée à dialoguer avec Washington, et ce au lendemain de l'annulation assez soudaine donc par Donald Trump de ce sommet qui était prévu entre les deux pays le 12 juin. Lettre adressée donc à son homologue nord-coréen dans laquelle Donald Trump explique les raisons pour lesquelles il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Lettre d'une vingtaine de lignes qui oscille entre un certain formalisme et un ton par moments beaucoup plus direct.
Oui, un ton qui peut paraître déconcertant avec un mélange de chaleur et de menaces, comme la lettre d'un amoureux déçu qui, avec une certaine dose de mauvaise foi, rejette la responsabilité de la rupture sur l'autre, regrette profondément le rendez-vous manqué, le menace de vengeance, puis se dit prêt à le revoir pour se rabibocher. Une missive adressée à son excellence Kim Jong-un, loin du petit homme fusé dont il était affublé il y a quelques mois. Très classiquement, Donald Trump commence par lui dire à quel point il a apprécié le temps, la patience et les efforts consacrés aux négociations préalables au sommet. Un sommet dont, au passage, il assure qu'il était préparé depuis longtemps par les deux parties, ce qui est un léger arrangement avec la vérité. Un sommet demandé par la Corée du Nord, précise-t-il, tout en ajoutant que cela n'a aucune importance. Mais il le dit quand même. Et j'avais tellement hâte d'être là avec vous. C'est avec tristesse que le président américain dit y renoncer. Mais le Trump accusateur arrive vite. C'est la faute de la Corée du Nord, de son immense colère, de son hostilité ouvertement affichée dans ses dernières déclarations. Avec la phrase suivante, on grimpe encore dans les menaces. Vous évoquez votre arsenal nucléaire, mais le nôtre est si massif et puissant que je prie Dieu que nous n'ayons jamais à en faire usage. Ça nous ramène là au temps du tweet sur le bouton nucléaire américain plus gros que le coréen. Puis, retour au ton de l'amoureux et conduit, on remet les gants diplomatiques dans le paragraphe suivant. J'ai senti qu'un merveilleux dialogue se construisait entre vous et moi, et finalement, seul ce dialogue compte, sauf qu'il n'a jamais eu lieu. J'ai hâte vraiment de vous rencontrer un jour, et si vous changez d'avis concernant ce sommet si important, n'hésitez pas à appeler ou à écrire. La lettre se termine sur une note sombre, opportunité manquée pour la paix et la prospérité. Un moment très triste de l'histoire, dit Donald Trump.
Voilà. Et plus si affinité. Donc il n'y aura pas de sommet pour l'instant. Quel bilan on peut tirer sérieusement de cette séquence qui s'achève maintenant avec l'échec de ce sommet?
La lettre était sérieuse hein, quand même. Bien, il y a déjà des conséquences géopolitiques dont nous parlerons sans doute. Mais pour rester sur Donald Trump, cet épisode illustre de manière assez éclairante sa conception de la diplomatie. On fait beaucoup référence ce matin dans la presse américaine à son ouvrage « L'art du deal », comme s'il avait voulu appliquer aux affaires du monde les règles du monde des affaires, la menace, la surenchère, la flatterie, la brutalité, et puis l'on quitte la table avant d'y revenir, persuadé de négocier en position de force. Cela marche peut-être comme cela dans l'immobilier, mais pas avec l'Iran ou la Corée. Plus inquiétant, Trump ne peut quitter la table du monde, le monde est toujours là, dans un état sans doute plus incertain, mais il semble d'en avoir cure, l'Amérique d'abord, certes, cela veut dire faire fi du multilatéralisme, mais abandonner aussi le rôle de faiseur de paix de l'Amérique au profit du deal bilatéral au gré des intérêts économiques. Il n'est pas sûr d'ailleurs que même pour l'économie américaine, cela soit une bonne stratégie.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup. On est en ligne avec notre invité Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On va vous retrouver pour la séquence interview. Un petit mot là-dessus, d'abord sur peut-être une explication des raisons de cette décision de Donald Trump concernant son sommet avec le président nord-coréen.
Alors tout d'abord, je crois qu'il y a une raison à court terme, c'est que dans la nuit précédant la lettre, un responsable nord-coréen a insulté le vice-président Pence, le traitant d'idiot politique à cause de ses déclarations à propos de la Corée du Nord. Visiblement, cela a offensé le président Trump, et il y fait allusion d'ailleurs.
C'est quand même une raison un petit peu, effectivement, on va dire superficielle, ou une raison de dernière minute. Est-ce qu'il y avait une raison de fond aussi?
Oui, il y a une raison de fond, et je crois que le président Trump l'a aussi évoqué, c'est qu'il s'est aperçu que le sommet à venir, qui avait mal été préparé, qui avait mal été négocié, allait buter sur le problème de fond, qui est celui de la dénucléarisation de la Corée du Nord, et jamais Kim Jong-un n'a pour l'instant dit qu'il voulait dénucléariser. Et donc, face à ce sommet mal préparé, Donald Trump s'est sans doute aperçu qu'il risquait gros, et tout à coup a préféré tirer la prise et ne pas y aller.
Il n'aurait pas pu s'en apercevoir avant, si je puis dire, avant de se lancer dans cette opération.
Alors évidemment, on peut le penser, mais il ne faut pas oublier que c'est une initiative purement personnelle. Il faut se souvenir que début mars, c'est Trump et Trump seul, sans consulter ses conseillers, qui a accepté l'offre de rendez-vous de Kim Jong-un. Et donc, encore une fois, on est dans une diplomatie des foucades d'une seule personne qui agit seule au gré de ses impulsions.
Corentin Salin, merci beaucoup. On revient là-dessus dans notre séquence interview à la fin de ce journal. On continue de feuilleter les pages internationales avec ces nouveaux bombardements en Syrie sur des bases iraniennes et, ou sur des positions du Hezbollah libanais. Il y aurait au moins 12 combattants qui auraient péri donc dans l'est de la Syrie dans ces frappes qui sont attribuées par le régime syrien et par une ONG syrienne à la coalition internationale dirigée par les États-Unis, mais cette dernière dément être intervenue. En tout cas, ces raids ont lieu dans un secteur de la province de Deir ez-Zor, où la coalition internationale et les forces loyales à Bachar el-Assad combattent séparément les djihadistes. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc ces dernières frappes pourraient évidemment s'inscrire dans cette série d'opérations qui sont menées par Israël contre les forces iraniennes qui sont implantées en Syrie.
Oui, c'est le plus probable en effet. La coalition internationale, vous l'avez dit, a démenti avoir lancé une quelconque opération incluant des frappes aériennes sur cette position située en plein désert syrien, à proximité du terminal d'une station de pompage pétrolière. La zone n'est pas une ligne de front, elle est isolée à environ 70 km à l'ouest d'Al-Boukamal, où les forces du régime d'un côté, les forces démocratiques syriennes appuyées par les occidentaux de l'autre, affrontent encore les djihadistes de l'État islamique dans l'un de leurs derniers réduits. En revanche, sur cette position, dénommée Terminal 2, étaient cantonnées des unité, soutien du régime, mais non syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque ce matin un bilan de 14 personnes tuées dans ce bombardement aérien, dont seulement 2 Syriens. La nationalité des autres, libanais peut-être, le Hezbollah, iranien ou encore irakien. L'Iran, en effet, entraîne, paie et arme de nombreuses unités de combattants chiites opérant en Syrie en soutien du régime. Et ce sont bien ces unités-là, et surtout celles des gardiens de la révolution iranien, que l'aviation israélienne martèle systématiquement depuis plusieurs semaines maintenant en Syrie. Hier également, un dépôt d'armement, manifestement tenu par le Hezbollah libanais, était visé par une attaque aérienne près de Homs, à proximité de la frontière libanaise. Or, des chasseurs bombardiers israéliens ont été vus hier dans l'espace aérien libanais. Dans les deux cas, cependant, Israël ne confirme pas avoir mené d'opération en Syrie, mais ne le dément pas non plus.
Eric Biegala, merci. En Espagne, après la condamnation du Parti conservateur dans un spectaculaire procès pour corruption, le Parti socialiste espagnol, la première formation d'opposition, dépose une motion de censure contre le gouvernement de Mariano Rajoy. Et pour réussir, cette motion devrait recueillir une majorité donc de 176 députés derrière le candidat que présentera le parti pour former un nouveau gouvernement. C'est une majorité qui paraît assez difficile à réunir dans une opposition qui reste divisée en Espagne. Nous sommes 7 mois maintenant après les premières accusations d'abus sexuels contre lui, le producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui avait disparu dès les premières révélations qui le concernaient, va se livrer dans quelques minutes à la justice à New York. On retrouve Grégory Phillips qui est sur place. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Harvey Weinstein qui est attendu donc dans quelques minutes au poste de police de Manhattan.
Oui, précisément au commissariat du quartier de Tribeca, dans le sud de Manhattan. Là, il sera placé en état d'arrestation. Puis dans la foulée, l'ancien producteur hollywoodien sera emmené jusqu'ici au tribunal, là où on va lui préciser quelles sont les charges qui sont retenues contre lui. Weinstein sera aux côtés de son avocat Benjamin Braffman. On le connaît bien en France. Il avait notamment défendu Dominique Strauss-Kahn en 2011 au même endroit. Ensuite, Weinstein ne devrait pas partir en prison, en tout cas pas tout de suite. Ses équipes ont conclu un accord avec le procureur, et cet accord prévoit le versement d'une caution d'$1 million qui devrait donc permettre à Harvey Weinstein de rester provisoirement, en tout cas en liberté. On devrait lui adjoindre un bracelet de sécurité et son passeport devrait être retiré. Harvey Weinstein ne pourra plus, à partir de ce matin, quitter le territoire américain.
Alors, dossier, évidemment, l'accusation est lourde. Une centaine de témoignages. Bon, ce matin, il n'y a que 2 cas qui vont être examinés, une agression sexuelle et puis un viol aussi.
Oui, ce sont les deux affaires qui ont retenu l'attention du procureur Cyrus Vance et de ses équipes. D'abord, une agression sexuelle qui remonte à 2004. À l'époque, Lucia Evans était étudiante et rêvait de cinéma, de devenir actrice. Harvey Weinstein lui avait donné rendez-vous dans les bureaux de la Miramax ici à New York, et puis elle avait contrainte à une fellation. Lucia Evans a été l'une des premières femmes à témoigner dans la presse à l'automne dernier, notamment dans le New York Times. Et puis l'autre charge qui pèse contre Harvey Weinstein, cette fois c'est un viol. L'identité de la victime n'a pas été dévoilée, ni les circonstances, mais je peux vous dire que ici dans l'état de New York, pour ce type de crime, Harvey Weinstein risque jusqu'à 25 années de prison.
Merci beaucoup, Grégory Philips. Vous étiez donc en direct avec nous depuis New York. C'est le signe d'un basculement, sans doute, dans le monde de la production du divertissement. La capitalisation du géant de la vidéo-divertissement Netflix a dépassé hier à Wall Street celle de l'entreprise Disney pour atteindre 130 milliards d'euros. Netflix, donc numéro 1 mondial du divertissement, avec une cote en bourse qui a pris 82% en une seule année. Elia Bergel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci, une ascension fulgurante, évidemment. C'est une entreprise qui a, on peut le dire, révolutionné le divertissement. Il faut voir comment.
Oui, Antoine, le roi du divertissement est tombé de son trône. Ce dépassement en bourse de Walt Disney est un symbole fort. L'entreprise créée en 1923 possède entre autres la franchise Star Wars et des parcs d'attractions partout dans le monde. Mais le géant du divertissement peine à s'adapter au nouveau monde de la vidéo à la demande, un monde où Netflix règne en maître. L'entreprise a construit son succès sur cette promesse: votre vidéo à n'importe quel moment et sur n'importe quel écran, télévision, tablette ou téléphone portable. Netflix fournit des vidéos mais produit aussi des séries qui font date, House of Cards par exemple ou Stranger Things, et ses propres films, le tout diffusé en exclusivité sur sa plateforme. Pour séduire ses 125 millions d'abonnés, Netflix mise sur l'hyper-personnalisation de ses contenus, le big data est mis au service du succès de l'entreprise, ses algorithmes puisent dans les données des abonnés et peuvent anticiper la réussite d'une série ou non. Avec sa plateforme de vidéos en ligne, l'entreprise lancée en 1997 a aussi changé la manière d'écrire les scénarios. Vous pouvez regarder un épisode de série à l'infini, revenir en arrière, des fonctions qui permettent de se libérer des formats traditionnels imposés par la télévision. Par ailleurs, Netflix diffuse tous les épisodes des séries d'un coup, ce qui encourage le fameux binge watching, en français le visionnage de masse, un visionnage qui peut se faire à n'importe quel moment sur Internet. Aujourd'hui, l'icône rouge Netflix est parfois directement apposée sur le bouton de votre télécommande et la formule télévision recommandée par Netflix est devenue un atout marketing.
Élie Abergel, merci beaucoup. France Culture Radio, de l'offre radiophonique. Merci en tout cas d'avoir précisé ce basculement, ce renversement. On revient, parce qu'on reste finalement aux États-Unis, on y était dans les deux derniers sujets. On revient du côté de notre invité Corentin Célin, historien, spécialiste des États-Unis. On revient à cette décision de Donald Trump, donc d'annuler ce sommet avec la Corée du Nord. Marie-Pierre Véraud le disait dans son papier tout à l'heure, il y a peut-être un risque finalement à vouloir défendre l'Amérique d'abord, qui serait celui de lui faire perdre précisément son rôle de responsable plus largement d'un leadership mondial qui entraînerait d'autres engagements de sa part. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement une arme à double tranchant, c'est-à-dire d'isoler l'Amérique dans son unilatéralisme ?
Absolument, c'est effectivement le grand danger. Et on note sur le dossier de la Corée du Nord qui nous intéresse qu'en 4 mois de rapprochement avec le régime de Kim Jong-un, les États-Unis ont en quelque sorte perdu la main, puisque désormais la Corée du Nord semble avoir une position renforcée. Elle a été légitimée par les initiatives de Donald Trump. Hier encore, le fait d'adresser une lettre pour un président des États-Unis, d'adresser une lettre à celui qui était considéré jusqu'à il y a peu comme un dictateur sanguinaire, montre à quel point il a été crédibilisé, légitimé comme interlocuteur. De la même manière, la Chine et la Corée du Sud sont devenus les véritables négociateurs de toute éventuelle paix avec la Corée du Nord. Et on voit aujourd'hui des États-Unis en retrait, qui ont perdu leur place de principal régulateur sur ce dossier nord-coréen. Et c'est effectivement une conséquence directe de l'unilatéralisme un peu brouillon du président Trump.
Marie-Pierre Véraud.
Et est-ce que, outre cette légitimation de la Corée du Nord, qui a beau jeu aujourd'hui de se dire toujours ouverte à un règlement, il n'y a pas aussi le risque de froisser des alliés, la Corée du Sud, de remettre la Chine aussi au centre du jeu sur cette question coréenne, alors que les États-Unis avaient semblé lui damer le pion? Qu'en est-il de la présence et de la puissance américaine dans la région?
Alors absolument, la relation avec la Corée du Sud est la grande victime de l'épisode d'hier. Le président Moon de Corée du Sud a été humilié, puisque très visiblement il n'avait pas été prévenu par Donald Trump de l'annulation du sommet, alors même qu'il était à Washington en début de semaine. Et par ailleurs, il faut bien mesurer que la Corée du Sud a beaucoup donné déjà aux États-Unis de Trump en acceptant par exemple un contingentement de ses exportations d'acier à la suite de la hausse des tarifs douaniers, et elle est bien mal récompensée, et on voit encore une fois le mépris des alliés et des alliances que peut avoir Donald Trump. On s'en souvient encore avec le dossier iranien. On est vraiment dans un unilatéralisme, mais qui n'a aucune considération pour la valeur des alliances, y compris la valeur historique. Et la Corée du Sud a été particulièrement maltraitée, au point que la position du président Moon, qu'il faut bien le rappeler, et l'homme de la paix, du rapprochement avec la Corée du Nord, c'est toute sa carrière même a été fondée là-dessus, se retrouve très affaibli politiquement à la suite de cette décision unilatérale des États-Unis.
Et est-ce que vous pensez que Donald Trump souhaite toujours malgré tout voir ce sommet? Il avait beaucoup capitalisé dessus, il se voyait presque prix Nobel de la paix, ou est-ce que là il a tiré les leçons, il se dit que ça n'aura pas lieu?
Je crois que d'une part, il faut rappeler que Donald Trump, qui avait pris cette initiative seul, a été rattrapé par son nouvel entourage, constitué en particulier de John Bolton, son nouveau conseiller à la sécurité nationale, qui lui est partisan de la méthode de dure. Hein, c'est un homme qui serait même partisan de frappe préventive sur la Corée du Nord. Donc Trump a dû arbitrer avec des factions à l'intérieur de son entourage qui sont beaucoup plus favorables à une politique de force. D'autre part, il faut quand même mesurer à quel point Donald Trump est un personnage singulier. Hier, on a quand même vu un président des États-Unis qui écrit une lettre pour annuler un sommet et qui, s'exprimant une heure après, dit « mais peut-être que le sommet aura lieu le jour prévu, le 12 juin ». Donc on a quand même quelqu'un de très volatile, totalement imprévisible, qui n'agit que par impulsion. Et donc savoir désormais s'il y aura poursuite d'un processus de rapprochement, c'est très difficile à dire, mais l'entourage de Donald Trump, lui, pousse plutôt pour une solution de force contre la Corée du Nord.
Merci, merci beaucoup Corentin Célin d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Vous étiez en direct de France Bleu Gironde, édition qui s'achève. Elle a été réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Camille Magnard.